Pourquoi lisons-nous? Et on enquête sur la lecture comme expérience. Eric Marty, l'amour de la lecture.
J'avais au début proposé un autre titre que celui-là, qui était Se lire, se relire, mais qui est apparu un titre un peu obscur. Et on est revenu au titre plus sage en apparence, donc, qui est La mort de la lecture. Titre plus sage en apparence parce qu'au fond, un titre, ça veut dire n'importe quoi, et on peut en faire ce qu'on veut. Qu'on pense à des grands titres comme Le rouge et le noir, À l'est d'Éden, À l'ombre, jeune fille en fleurs, La porte étroite. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que personne ne peut donner vraiment un sens à un titre, et on peut donner à tous les titres leur sens, des sens. Par exemple, ce soir, est-ce que je vais parler au fond du fait que la lecture va mourir, ou au contraire que la lecture porte en elle de la mort, qu'il y a dans la lecture, dans l'acte même de lecture, une forme de mort, qui serait donc le sens inverse. Que la lecture porte, communique en elle de la mort. Que la lecture est sujet de la mort et non pas objet de la mort. Et on peut déjà tirer une première leçon de lecture, c'est que tout énoncé au fond, tout grand texte littéraire porte en lui sa propre réfutation. Tout texte se réfute lui-même, c'est une, cette pensée, j'extrapole à partir d'une réflexion de Jean Genet sur Dostoïevski. Et au fond, toute lecture doit rendre cette loi réelle et vivante. En lisant, au fond, peut-être que je peux mettre les textes dans leur envers, qui est aussi leur endroit. Et cette loi que, selon Genet, Dostoïevski illustre par ses personnages, qui sont merveilleusement paroxystiques, cette loi que Genet incarne en cachant les sentiments de ses personnages et en donnant seulement à entendre ce qu'ils disent, donc en dissociant parole et pensée, cette loi, elle est partout, d'une œuvre qui se réfute elle-même. Elle est aussi présente chez Proust, qui est grand livre de l'impuissance à écrire et qui donne un livre monstrueusement long et très fécond. Eh bien, La mort de la lecture, c'est modestement un peu cela. C'est aussi un titre qui se réfute lui-même. Il y a d'un côté la lecture comme vulnérable, elle risque de mourir, et puis la lecture comme coupable, elle porte en elle de la mort. N'est-ce pas Valérie Larbaud qui disait que ce vice impunit la lecture. On fait la lecture quelque chose de doux, de gentil, mais au fond, il y en a peut-être de la cruauté, de la méchanceté, de la violence et du vice. Et Proust, par exemple, ou plutôt ce personnage étrange qui est le narrateur de son œuvre, ne choisit-il pas un lieu singulier pour lire, sachant que lire, c'est aussi autre chose que lire. Ce petit cabinet qui sent l'iris, dont le héros de son œuvre choisit pour y lire. Je lis un petit passage où, au début de la recherche, Proust évoque précisément cette lecture de l'enfant. Je montais sangloté tout en haut de la maison, à côté de la salle d'études, sous les toits, dans une petite pièce sentant l'iris. Et que parfumait aussi un cassis sauvage poussé au dehors, entre les pierres de la muraille, et qui passait une branche de fleurs par la fenêtre entrouverte. Destinée à un usage plus vulgaire, cette pièce, d'où l'on voyait pendant le jour jusqu'au donjon de Roussainville, servit longtemps de refuge pour moi, sans doute parce qu'elle était la seule qui me fut permis de fermer à clé. Et à toutes celles de mes occupations qui réclamaient une inviolable solitude, la lecture, la rêverie, les larmes et la volupté. Et donc, ce petit cabinet qui sent l'iris, qui est un lieu de lecture, un lieu secret, un lieu d'enfermement, c'est aussi donc un lieu de jouissance, un lieu de lecture, un lieu de larmes, de solitude, d'ennui. Tout récemment est paru un livre sur la lecture qui s'appelle « Réparer le monde », la lecture face au XXIe siècle. De quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Alexandre Jeffel, mais avec lequel je ne peux pas être tout à fait d'accord, même si cette idée de réparation, de réparer le monde, il le tire de la mystique juive, hein, de la fameuse énoncé, le Tikkun Olam, qui signifie effectivement en hébreu réparer le monde. Mais le mot Tikkun, qui veut dire réparer, lui aussi peut se réfuter facilement. Peut-être que pour réparer, il faut détruire. Peut-être que pour détruire, il faut réparer. Peut-être qu'au fond, les mots peuvent être pris dans les sens parfois inverse. Quoi qu'il en soit, Alexandre Geffen voit donc la littérature comme réparation du monde. Et la lecture serait une sorte d'instrument thérapeutique, une sorte de médecine, de remède. Remède à ce qui va mal dans le monde. Et où la lecture donc serait une sorte de lien social. Mais ce n'est pas ce que nous dit Proust lorsqu'il parle de solitude inviolable. Et ce n'est pas non plus ce que dit Baudelaire dans son extraordinaire poème Au lecteur qui ouvre Le fleur du mal, qui fait de l'ennui l'origine du meurtre, du viol, de l'incendie, de l'empoisonnement auquel Baudelaire nous convie, nous, à tous ces forfaits. Cet ennui, donc que Baudelaire place au commencement de son recueil de poèmes, cet ennui qui correspond à ce qu'on a appelé la cruauté mélancolique, l'état de cruauté mélancolique, cet ennui dont Baudelaire dit que dans un bâillement, il avalerait le monde, cet ennui, donc, est ce qui convoque le lecteur. Cet ennui est ce par quoi Baudelaire convoque le lecteur. Il dit ceci. Tu le connais, il parle de l'ennui, tu le connais, lecteur, ce monstre délicat, hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère. J'aime beaucoup ces deux vers de Baudelaire, ces deux derniers vers qui est précisément pour la place qu'il donne au lecteur, deux fois, dont deux vers qui se suivent, deux fois les mystiches, hein, et qui convoque le lecteur dans un tutoiement intimidant. Et qui démasque donc dans la lecture une forme de déviance, hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère, dans le rythme descendant des vers, hypocrite, semblable, frère. Et il me semble que dans cet appel, dans cette convocation du lecteur, se joue autre chose que le lien social. C'est un lien qui se resserre, c'est un lien qui nous attache, un lien qui nous assujettit tout en nous libérant. Dans une forme de fraternité étrange, fraternité du meurtre, fraternité du viol, fraternité de la violence, fraternité du mal dans les fleurs du mal. Et se libérer tout en nous emprisonnant, c'est encore une fois cette réfutation, peut-être, dont j'ai parlé, où l'écrivain et le lecteur se cherchent, se perdent et se trouvent dans des forêts de symboles qui constituent le poème. Dans ce monde effectivement très dur, mauvais, destructeur, la lecture n'est pas le pieux refuge des belles âmes, elle n'est pas la lecture l'empire du bien, comme la société semble vouloir nous faire croire. Il me semble que rien de tel pour faire mourir la lecture que de lui confier ce rôle un peu niais, d'en faire un espace de douceur, de gentillesse et de réparation, d'en faire l'espace des beaux sentiments. Et je suis frappé par cette rumeur qui veut que la lecture soit une pratique douce, une pratique finalement pour gens innocents, et qui fait du lecteur le contraire du lecteur baudelairien, le contraire du lecteur que Baudelaire veut créer précisément par les fleurs du mal, car chaque écrivain, au fond, crée son lecteur, et Baudelaire a créé un lecteur qui demeure, à mon avis, un modèle de lecteur. D'ailleurs, la lecture est peut-être une chose si compliquée qu'il n'y a pas besoin de Baudelaire, ni d'un livre sulfureux comme Le fleur du mal, pour rendre la lecture, pour faire la lecture une pratique, sinon interdite, du moins une pratique suspecte, puisque pendant toute une période, même la Bible, précisément la Bible, a été l'objet d'une non-lecture, a été réservée à la lecture, et cela, au fond, du XIIe siècle avec le pape Innocent III jusqu'au XVIe siècle avec le pape Paul IV, eh bien, au fond, la Bible était elle-même aussi réservée à la lecture. Comme si la lecture n'était pas quelque chose de tout à fait une pratique aussi douce et aussi ordinaire qu'on veut le croire. D'ailleurs, c'est pendant cette période, justement, où la lecture était suspecte et interdite, que les penseurs, les philosophes, se sont interrogés sur la lecture, qu'il y a eu beaucoup de livres, à ce moment-là, qui ont été écrits sur l'arte legendi, l'art de la lecture, et parmi lesquels, justement, il y a eu beaucoup de textes de ce type-là, et il y en a, j'en cite un, hein, qui est un certain Hugues de Saint-Victor, première partie du XIIe siècle, à partir sur lequel Ivan Illich dit ceci. Il dit qu'au fond, à ce moment-là, la page, qui jusque-là était une sorte de memento qu'on lisait sans comprendre, qu'on répétait, qu'on marmottait, il emploie le verbe marmotter, qu'on marmottait de manière mécanique, à ce moment-là, la page est devenue tout d'un coup autre chose. Elle s'est optiquement organisée pour une lecture analytique, une vraie lecture. Eh bien, ce genre de déchirure, et tout d'un coup, le livre cesse d'être une sorte d'objet qu'on ressasse sans le comprendre, à un texte qu'on se met justement à pouvoir épeler, à pouvoir déchiffrer, à pouvoir décrypter, et à pouvoir aussi critiquer éventuellement. Voilà peut-être là où se situe ce que j'ai appelé la violence de la lecture. Il n'y a pas besoin d'un texte sulfureux comme Baudelaire, comme Sade ou comme Genet pour que la lecture devienne en effet ce que Valérie Larbaud donc appelait un vice impuni. On l'aura compris, si au fond la lecture est violence et déchirure, compréhension mais aussi réfutation, c'est tout simplement parce que la lecture c'est l'accès à l'autonomie. C'est en ça qu'il me semble que la lecture peut être une forme de violence, au sens où lire est une pratique qui fait que le sujet devient autonome, c'est-à-dire accède à la faculté de produire sa propre loi. Lire, c'est bien cette traversée des textes au cours desquels je ne cesse de réorganiser les mots, le sens, à partir de lois qui sont les miennes. Qui sont d'autant plus les miennes qu'elles semblent émaner de l'autre avec un grand A, tant cet autre ne s'identifie pas seulement avec l'auteur, tant cet autre ne se limite pas à une seule voix, tant cet autre est plusieurs voix, tant cet autre n'a pas au fond d'identité limitée, tant moi et lui sommes devenus indissociables, tant l'auteur et le lecteur sont devenus une forme d'intersubjectivité, hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère, telle est en effet finalement cette forme d'autonomie à laquelle Baudelaire nous invite et qui est violence. Cette autonomie du sujet que la lecture produit par la pratique même de la lecture définit, on le sait, la modernité. Définit la modernité alors, à toutes les époques, au fond, car toutes les époques ont produit cette modernité propre à la lecture, donc productrice d'autonomie. Mais dans le champ littéraire, la question du lecteur est devenue une question sans doute peu à peu problématique, au point que les écrivains ont souvent intégré le lecteur à leur propre livre, sous des formes contrastées. On l'a vu avec Baudelaire, hein, hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère, le lecteur est présent dans le texte des Fleurs du Mal, il est convoqué dans le livre, il devient un personnage au fond du livre. Mais ce rapport que l'écrivain entretient avec l'acteur peut être aussi un rapport de rejet, où au fond l'écrivain se débarrasse du lecteur, et en tout cas, pour l'écrivain, le lecteur peut être aussi une figure problématique. Qu'on pense à Mallarmé, et à cette phrase de Mallarmé, où il dit « impersonnifier le volume, donc le livre, autant qu'on s'en sépare comme auteur, ne réclame approche de lecteur. Ne réclame approche de lecteur. Pour Mallarmé, le livre, le volume, se tient tout seul, droit, et au fond, n'a pas besoin, ne réclame pas l'approche du lecteur. Paradoxe, évidemment, paradoxe, puisque cette phrase-là, quelqu'un doit bien la lire. Et cette phrase-là, elle est faite pour être lue. Mais on voit dans ces jeux que l'écrivain entretient avec le lecteur que ce jeu n'est pas un jeu forcément facile. Ce n'est pas forcément un jeu de complicité simple. On l'a vu avec Baudelaire. Complicité quand même étrange que de traiter son lecteur d'hypocrite, de semblable et de frère. Et aussi, là encore, de manière plus étrange encore avec Mallarmé, où le lecteur est éloigné du livre, hein, où le livre se suffit à lui-même. Avec Mallarmé, mais avant lui avec Rimbaud, naît la figure fondamentale de l'écrivain sans lecteur. Car il y a des écrivains qui, au fond, se sont définis eux-mêmes comme écrivains, mais sous condition précisément... S'il vous plaît, pouvez-vous taire ? Mais sous condition précisément d'être sans lecteur. Qu'au fond, l'écrivain comme écrivain s'accomplit mieux en se débarrassant de cette espèce de danger qu'est le lecteur. Et la transaction sociale qui consiste à lire, à être lu, n'est pas forcément quelque chose qui fait plaisir à l'écrivain. Le contenu du livre, comme sa forme, doivent précisément nier le livre comme transaction sociale et donc poser le lecteur comme une figure inauthentique. Le lecteur peut apparaître pour l'écrivain comme une figure inauthentique, d'où d'ailleurs la phrase de Baudelaire « hypocrite lecteur ». Au fond, pour l'écrivain, le lecteur peut être aussi un problème. Le fait qu'il ne soit pas écrivain lui-même, qu'il soit au fond un consommateur, peut-être lui apparaître comme une forme de tare, de médiocrité. Et ce lecteur, peut-être que l'écrivain n'a pas forcément envie de le rencontrer et même d'être, au fond, de l'avoir comme son consommateur. Et pour Rimbaud, donc non seulement c'est une œuvre, je dirais, sans livre, hein, une œuvre sans livre, mais aussi une œuvre donc sans lecteur, comme si finalement, dès lors que l'œuvre se réalise comme chose, elle devient cochonnerie, elle devient quelque chose qui n'a plus précisément son authenticité, et l'œuvre va se transmettre non plus par un livre bien fait, par un beau livre, par des librairies, mais par des bouts de papier. Par des bouts de papier, et c'est comme ça que les illuminations nous sont parvenues, sous la forme de bouts de papier, sauvés miraculeusement, mais que Rimbaud n'a jamais lu de son vivant, conçu comme livre et constitué comme livre. Hein. Ces bouts de papier, au fond, étaient pour Rimbaud ces bouts de papier sans lecteur, donc ces bouts de papier qui étaient destinés à rester bouts de papier. Hein. Ces bouts de papier, donc, étaient précisément une manière d'exprimer la position d'un écrivain sans lecteur. Et on arrive, disons, alors à cette qu'on pourrait appeler l'écriture intransitive, une écriture sans objet et sans destinataire, une écriture, au fond, qui est seulement écriture, qui n'a pas à se constituer sous la forme d'objet. N'est-ce pas cet autre moderne, Jacques Lacan, qui dans sa mot valise a bien résumé ce que l'écrivain sans lecteur peut penser du lecteur en parlant à propos de la publication d'une poubellication, donc mot valise, où le mot poubelle et le mot publication se confondent dans le mot poubellication. Et cette poubellication, cette association au fond de la publication et de la poubelle, et donc du lecteur à une forme d'éboueur, et peut-être aussi pour l'écrivain une manière de se séparer précisément de la transaction. Il y a peut-être de la mauvaise foi dans ce jeu, il y a peut-être une forme d'arrogance aussi, mais je crois que la modernité a aussi inventé à la fois la lecture qu'elle a inventé en même temps l'écrivain sans lecteur. Elle a inventé, on le sait, de toute façon, des situations paradoxales, des situations extrêmes. Dans l'histoire donc mouvementée de la lecture, une histoire qui est donc une histoire de violence, où le lecteur a dû d'abord s'inventer, arracher le droit à lire, arracher la possibilité de lire, où le lecteur a été après rejeté peut-être, mis de côté. Dans cette histoire donc mouvementée de la lecture, notre modernité, celle du XXe siècle, celle des années 60, 70, a inventé quelque chose de tout à fait nouveau dans cette histoire de la lecture. Elle a voulu porter l'autonomie du lecteur à un point radical, alors que pourtant les limites étaient déjà très, très repoussées. Elle a poussé les limites jusqu'à ce que Barthes a appelé, d'un mot qui a fait consensus pour tous les modernes, elle a poussé l'autonomie du lecteur jusqu'à la mort de l'auteur. C'est un texte célèbre de Barthes qui s'appelle « La mort de l'auteur ». Et cette mort de l'auteur, au fond, elle est donnée comme, je cite Barthes, hein, « Nous tous, c'est la dernière phrase du texte de Barthes, de ce texte qui s'appelle « La mort de l'auteur ». Nous savons que pour rendre à l'écriture son avenir, il faut en renverser le mythe. La naissance du lecteur doit se payer de la mort de l'auteur. » On voit que les rapports de l'auteur et du lecteur ne sont pas des rapports faciles. Tantôt, au fond, l'auteur se débarrasse du lecteur comme un parasite, comme quelqu'un qui est au fond un sujet inauthentique, qui n'est pas vraiment un sujet littéraire. Ou au contraire, le lecteur, c'est le lecteur qui tue l'auteur précisément pour se constituer comme lecteur. Et au fond, aucune autre formule que celle de Barthes ne dit mieux cette aspiration du lecteur à l'acte de lecture comme autonomie. Au fond, cette autonomie qu'est la lecture, où je suis face à un livre et où je le constitue moi-même tout en le lisant, cette autonomie, effectivement, Barthes en dit bien l'horizon final, l'horizon extrême, qui est le meurtre de l'auteur. On voit bien que la lecture est une chose violente. Ce n'est pas une chose, effectivement, qui est simple et douce. Et cette violence, je dirais, est d'autant plus forte que cette mort, ce meurtre de l'auteur, s'accompagne d'une naissance du lecteur, s'accompagne de vie. En ce sens, la modernité, celle de Barthes, de Lacan, de Foucault et des autres, a réellement rompu quelque chose dans le pacte du lecteur et de l'auteur. Cette modernité a vraiment cassé quelque chose dans le régime de lecture qui était jusque-là un régime vécu comme un régime, je dirais, de routine ou un régime socialisé. On pourrait dire que la modernité a inscrit une forme d'asocialité dans l'acte de lecture. Asocialité qui est le meurtre, évidemment. En fait, en faisant cette rupture, on pourrait dire que Barthes n'a fait que s'inscrire dans la tradition de la rupture, ou la rupture de la tradition, c'est la même chose, dans la tradition de la rupture, qui est une forme de tradition d'Occident, de constamment vouloir rompre avec lui-même. L'Occident est une culture de la rupture. Et on pourrait dire que chaque modernité, chaque époque moderne invente une nouvelle forme pour l'Occident de rompre avec soi. On retrouve dans l'espèce d'entreprise un peu folle des modernes, des structuralistes, le retour des grandes entreprises de lecture, aussi bien celle des grands talmudistes du 1er siècle que celle des moines chrétiens du 12e siècle, que celle aussi de la Renaissance, que c'est les encyclopédistes, bref, de toutes ces séquences qui scandent l'histoire de la lecture par des formes de rupture. On peut dater ce moment très précis, peut-être, où, je dirais, pour les modernes, lire est vraiment un acte fondateur de leur modernité. On pourrait le dater des années 65, 66, 67, du siècle précédent, par trois parutions. Lacan, qui publie son gros livre, Les Écrits, et met en tête le séminaire sur la lettre volée, qui est une lecture du conte d'Edgar Poe. Un an avant, Louis Althusser, qui est l'autre structuraliste, publie Lire le Capital, de Marx. Et puis, quelques années après, Barthes publie SZ, qui est une lecture de Sarrazine, de Balzac. Lire la lettre volée de Poe, lire le Capital de Marx, lire Sarrazine de Balzac ont été des enjeux apparemment fondamentaux pour eux. Ces trois volumes, ces trois textes, ces trois livres qui sont publiés à très peu de temps d'intervalle Et je crois, pour eux, l'enjeu même de leur entreprise intellectuelle, de leur révolution théorique, et peut-être, et aussi surtout, une manière de se constituer comme maître. Car il me semble que lire, si c'est une violence, c'est aussi parce que c'est un pouvoir. Lacan, Barthes, Althusser, dans leurs trois livres, au fond, font des formes de prouesse intellectuelle par où ils imposent leur pouvoir comme un pouvoir de lire, comme une puissance de lecture. Les trois lectures, celle de Marx, celle de Carpeaux, celle de Balzac, sont toutes des lectures virtuoses, des lectures très puissantes, mais c'est aussi l'occasion, bien sûr, pour la théorie de se construire, de se constituer. C'est enfin, pour les intellectuels, une façon de se constituer comme maître. Et ce n'est pas par hasard si ces trois lectures sont nées de séminaires où le maître, d'abord, dans un premier temps, entouré de ses disciples, a procédé à la lecture de ses textes pour ensuite en faire des livres. Ces textes, d'ailleurs, ont été ces trois livres dont j'ai parlé, hein, Les Écrits de Lacan, Lire le Capital de Althusser et puis AZ de Barthes, ont été des livres importants à leur époque, mais aussi des livres très contestés, très attaqués, comme si en effet, ils avaient, par ces livres, fait des actes de maîtrise, des actes de pouvoir qui réclamaient par conséquent la contestation. Voilà ce que je voulais dire d'un premier temps, et je vais bientôt terminer, mais le premier temps, c'était un temps où je voulais mettre en évidence la dimension transgressive, violente, mortelle aussi parfois à la lecture, puisqu'on tue l'auteur parfois, ou parfois l'auteur tue le lecteur. Hein. Bref, j'ai voulu dans un premier temps, comme ça, rapidement, j'espère en tout cas pas trop longuement, mettre en scène quelques situations de lecture. Mais je voudrais, dans un deuxième temps, qui sera plus bref, changer complètement de régime de parole, passer du discours théorique au récit. Et donc je vais faire un récit maintenant de lecture, un récit autour de la lecture pour essayer de penser la question à l'envers, autrement que sous la forme de la violence, sous la forme justement de l'admiration, sous la forme de la communion, sous la forme de l'échange. Voilà donc ce bref récit. C'était quand ? C'était en 2007-2008, sans doute, l'hiver ou l'été, je ne sais plus. Tous les dimanches, je me rendais chez Claude Lanzmann, l'auteur de Shoah, lire le manuscrit du Lièvre de Patagonie, chapitre après chapitre, livre qu'il était en train d'écrire à ce moment-là. Je sonnais en bas, à l'interphone, j'entendais sa voix grave qui m'indiquait l'étage. Il avait raison, car j'oubliais à chaque fois l'étage auquel il habitait, et il me le répétait. Voir la porte s'ouvrir sur lui était, comme toujours, un moment particulier, à cause de l'apparition de sa silhouette forte, carré, un peu ramassé, souple comme celle d'un animal, celle d'un bel ours par exemple. Une de ces silhouettes avec qu'on a envie d'étreindre ou avec laquelle on a envie parfois de se bagarrer. À cette époque-là, un rite suivait. Sans qu'on se dise grand-chose, je filais à droite, par un petit couloir, vers sa chambre, où je m'installais en attendant qu'il m'apporte la liasse de papier sortie de l'imprimante que j'allais donc lire. Je ne manquais pas au passage de voir dans son bureau deux silhouettes féminines. L'une s'appelait Sarah, l'autre Juliette, à qui il dictait ce livre, car il n'écrivait pas, détestant son écriture. Elle lui répugnait, et donc il fallait absolument qu'il dicte. Elles étaient les premières lectrices, mais avant tout les premières auditrices de l'œuvre. J'allais donc jusqu'à sa chambre à coucher, seule pièce disponible de l'appartement, et je m'asseyais avec ma ration de pages à lire, non pas tant à corriger qu'à radiographier, dans une empathie impitoyable avec lui, et lui dire si à cet endroit, à cet autre, ça allait ou ça n'allait pas. Bref, à parler avec lui de son texte, et lui suggérer parfois des retouches. Je le voyais revenir, une heure après, tout doucement, sans faire de bruit, cette fois-ci plus proche du chat que de l'ours. Je l'attendais, toujours assis sur le lit, un crayon à la main, et nous épluchions tous les deux ces merveilleuses pages, nous arrêtons tantôt sur ce qui nous faisait jubiler ou ce qui nous rendait nostalgiques, angoissés, heureux, et parfois donc à propos de telle phrase ou de tel paragraphe, je lui glissais une autre hypothèse. Nous étions côte à côte, enfoncés sur le lit, immobilisés aussi par l'étroitesse de la pièce qui rendait les disputes difficiles. C'est des moments d'une intense amitié que j'ai vécu là et avec lui. Un jour, je suis tombé sur un épisode qui m'a fasciné. C'est le chapitre 16 du livre de Patagonie, où il raconte sa vie de journaliste et puis surtout un épisode très important qui est son amitié avec Albert Cohen, l'immense écrivain Albert Cohen, l'auteur de Belle du Seigneur et tant de chefs-d'œuvre. Et il écrit 4 pages sur ses relations avec Albert Cohen qui m'ont beaucoup touché. À l'époque, ce n'était pas une fois par semaine comme moi pour lui où il allait voir Albert Cohen, c'était une fois par mois, car Albert Cohen habitait à ce moment-là à Genève et donc il ne pouvait pas évidemment le voir une fois par semaine. Et je voudrais relater les épisodes très ritualisés de la visite qu'il faisait à Albert Cohen. La première se nouait autour de la cigarette, la deuxième était liée au déjeuner, et puis il y avait un troisième temps, qui est le temps évidemment que j'aurais évoqué, qui était le temps de la lecture, où Claude Lanzmann lisait à Albert Cohen les livres d'Albert Cohen, où Albert Cohen demandait à Lanzmann de lui lire à haute voix ses propres livres. Voilà une relation de lecture qui me paraît intéressante et que je voulais évoquer précisément maintenant.
Donc tout commence d'abord par la cigarette, c'est-à-dire la mort. Comme c'est logique. La mort sous la forme donc de sa possibilité associée donc à la cigarette. Cette cigarette qui était formellement interdite à Albert Cohen. Et bien sûr, Albert Cohen demandait systématiquement à tout visiteur qui venait, qui d'abord lui refusait, puis qui cédait en mettant des conditions qui n'étaient évidemment jamais respectées. Chaque fois, dit Lanzmann, dès mon arrivée, il me fallait céder à sa supplication et lui donner la cigarette qui tue. La cigarette qui tue. L'écrivain est à un âge où des plaisirs peuvent tuer, et le lecteur qui vient lui rendre visite est le pourvoyeur des plaisirs interdits et des plaisirs mortels. C'est la dîme qu'il doit payer pour jouir aussi de celui qu'il admire, jouir donc de sa présence, et qu'il paye donc sous la forme d'un cadeau mortel. Cette cigarette, il va lui donner, et qui est le premier des paradoxes où se nouent les liens vivants entre un écrivain et son lecteur. L'essentiel n'est pas là seulement, car la cigarette est liée aussi à quelque chose de sacré pour Albert Cohen. Lanzmann fume lui aussi, et tout d'un coup, Albert Cohen se met à trembler. Quel crime a donc commis le visiteur? Quel crime a donc commis le lecteur par rapport au maître? Un sacrilège, tout simplement. Je cite Lanzmann. « 2 cendriers étaient disposés devant nous. L'un de taille et de forme normale, l'autre à pied et à pression. Le premier était destiné à la cendre. Matière noble, s'il en fut, peut-être encore plus, m'expliqua-t-il, pour nous autres, juifs, après ce qui était arrivé à notre peuple. Le mégot, par contre, paradigme de l'ignoble, ne doit pas être écrasé distraitement dans son cendrier, il doit disparaître, s'abolir dans le réceptacle à pression qui n'a pas d'autre fonction. Un maître, un écrivain, c'est ça. C'est justement celui dont les gestes, en rapport au monde, ne cesse d'être le lieu d'allégorie mystérieuse, énigmatique, auquel le lecteur doit obéir. Le lecteur, au fond, doit suivre l'univers symbolique de l'écrivain. Et cette rencontre que Lanzmann fait avec Albert Cohen autour de la cigarette, autour du fait qu'il y a un cendrier pour les cendres, un autre pour le mégot, que le mégot doit disparaître, ne doit pas être vu, seuls les cendres peuvent rester, est typiquement, je crois, un rite d'initiation que le lecteur, que l'auteur précisément, que l'écrivain peut imposer à son lecteur. Il y a une forme de génie symbolique de Cohen dans l'idée que les matières ne doivent pas se mélanger, que la cendre et le mégot sont destinés à des lieux différents. Entre la scène de la cigarette et le repas, il y a un épisode rituel qu'il faut signaler. Albert Cohen me lisait ou me faisait lire des textes d'admirateurs. Il me faisait lire des textes à sa gloire. Et je trouvais cela normal. juste et touchant, parce que je le tenais précisément pour un génie. Il faut entendre ce mot juste dans le sens de justice, normal dans le sens naturel et touchant du côté de l'amour, parce qu'au fond, la tendresse avec laquelle Lanzmann se plie au désir d'Albert Cohen est un acte d'amour pour l'écrivain. Et puis, il y a bien sûr le repas qui suit. Repas qui est aussi un rituel, toujours le même, toujours les mêmes aliments que Lanzmann partage avec son maître, Albert Cohen. Et puis vient le moment que j'aime le plus, qui constitue la pointe extrême du chapitre et qui est vraiment au cœur de cette rencontre, je crois, puisque c'est l'acte de lecture. Le reste de l'après-midi, avant que je prenne le dernier avion pour Paris, se passait de la plus étonnante façon. Je lui lisais ses œuvres. Ce n'était pas par paresse, nous étions convenus que tout commentaire appauvrissait la perfection, devenait paraphrase. Comme j'ai une excellente mémoire, je savais par cœur des passages entiers de ses livres que j'avais appris en lui lisant. Il rayonnait de plaisir, m'indiquant un morceau d'un autre roman qu'il souhaitait entendre, et les mains de plus en plus vivaces sur le chapelet d'ambre signalaient son bonheur. Le lecteur, donc, Lanzmann, maintenant, non seulement lit devant l'auteur le texte de l'auteur, mais a mémorisé l'œuvre, possède tout entier le texte de l'écrivain, il le sait par cœur. Il n'a plus besoin de lire l'œuvre de l'auteur, il est capable de le restituer par la voix et par la mémoire. Le temps, à force de lire, a assimilé le lecteur au livre. Le lecteur est devenu le livre qui parle. Le lecteur n'est plus celui qui est, en quelque sorte, un intermédiaire. Il est le livre même de l'écrivain qui parle. Et l'écrivain, comme un chef d'orchestre, lui fait jouer tel ou tel passage de son œuvre, lui fait réciter tel ou tel fragment de son œuvre. Et le lecteur, alors, merveilleux, le libéré de la lecture, peut observer l'écrivain, l'auteur, rayonnant de plaisir, et voir une incroyable extase, je cite, « et les mains de plus en plus vivaces sur le chapelet d'ambre signalaient son bonheur ». Ce chapelet, c'est le komboloi du juif né à Corfou, passe-temps traditionnel et mémorial des hommes grecs, et c'est aussi bien sûr le plaisir maniaque de l'écriture qui se confond dans les mouvements réflexes des doigts d'Albert Cohen entendant ses propres œuvres lues par son lecteur. La générosité du lecteur, car le lecteur évidemment est ici parfaitement généreux, il est entièrement, dans un don à l'auteur. Le lecteur est non seulement et là pour l'auteur, mais il est dans une sorte de don de lui-même total. Donc la générosité du lecteur autorise l'écrivain à un temps retrouvé. Le temps de retrouver la caverne où il a écrit, le temps de ce moment où il a conçu son œuvre, où il a tracé toutes ses lignes, et sans doute se les était dit lui-même aussi, souvent l'écrivain, en traçant ou en tapant à la machine ou à l'ordinateur ou en écrivant à la main, marmonne son propre texte. Ce temps retrouvé donc, dont l'écrivain effectivement ici jouit grâce au lecteur, devenu en quelque sorte une forme de vesta, d'ami absolu. Quand j'ai lu ces pages, évidemment, ce jour-là, les pages de Lanzmann sur Albert Cohen, il y eut alors en moi une forme de transfiguration de l'espace et du temps. Ainsi, moi, chaque semaine, en me rendant chez Claude Lanzmann pour lire la vendange de la semaine, je n'étais pas loin du même échange de plaisir entre lecteur et auteur. Échange normal, juste et touchant. Et lorsque nous feuilletions ensemble ces pages, ou que, à mon tour, assis à côté de lui, je lui lisais tel ou tel passage de son œuvre pour l'en féliciter ou pour lui suggérer telle ou telle petite modification, là encore, n'étions pas très loin non plus de la magnifique allégorie que lui-même avait su vivre et raconter de ses visites avec Albert Cohen. Pas loin d'éloigner la mort de nos vies, pas loin d'être dans un temps justement peut-être où la mort était momentanément écartée. Tel est peut-être le temps utopique de la lecture, le temps heureux, l'envers de la mort de la lecture, ou au contraire son endroit, en tout cas qui renvoie peut-être justement à une forme de relation entre le lecteur et l'œuvre, qui est une relation de fusion, d'adhésion exceptionnelle, moment justement peut-être où lecteur et auteur cessent de se détester, cessent de se déchirer, cessent de s'opposer, mais se confondent.